Et je voulais vraiment vous manifester ma reconnaissance envers vous, envers votre soutien, envers votre amitié depuis le temps que je suis dans cette église. Et j'espère que du coup, ce que je vais pouvoir vous redonner sera aussi un témoignage de mon affection et de ma reconnaissance à votre endroit. Et ma contrariété, parce que je vous avais préparé tout un beau PowerPoint, j'étais très fier de moi, et ça fonctionne pas. Donc je vais essayer d'être plus clair, n'hésitez pas à m'interrompre si c'est pas évident, on va parler un peu de cartes, de géographie, et sans cartes, ça va être un peu plus difficile de vous représenter les choses. Mais bon, on va faire avec. Alors, je voudrais vous parler de l'obéissance, c'est le thème pastoral de cette année. Et si je devais intituler la prédication d'aujourd'hui, je l'appellerais « Obéir à la voix de Dieu » ou « L'art d'une vocation responsable ». Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, imaginez une jeune femme qui s'appelle Anna, 21 ans à peu près. Elle vient régulièrement à l'église, elle est assez consacrée dans sa vie. Et Anna se demande ce qu'elle va faire de sa vie. Elle a entendu dire qu'il y avait besoin de missionnaires en Afrique. Et vraiment, elle hésite. Elle se demande si, parce qu'il y a des besoins là-bas, elle doit partir. Et heureusement, bonne nouvelle, un prophète vient à l'église. Oh, c'est super, ça y est, enfin, Anna va avoir la réponse dont elle a besoin pour savoir si elle part ou elle ne part pas. Le prophète vient, apporte la parole, après vient le temps de ministère. Il dit une parole à une personne, il dit une parole à une autre personne, et puis vient le tour d'Anna. Le prophète regarde Anna et passe à la personne d'à côté. Catastrophe. Anna n'a pas eu la parole qu'elle attendait. Elle ne sait donc pas si elle doit partir en Afrique ou non. Le problème d'Anna, c'est qu'elle a vraiment le désir de répondre à la volonté de Dieu, de lui obéir. Mais elle ne sait pas comment discerner. On va laisser Anna quelque temps mijoter dans son coin. Et je vous propose de prendre dans Acte 16... On va se livrer un petit exercice intéressant qui va peut-être nous permettre d'aider Anna à répondre à sa question. Acte 16. Je vous en fais la lecture. Il arriva ensuite à Derbé, puis à Lystre. Il s'agit de Paul, c'est son deuxième voyage missionnaire. Et il est parti dans son premier voyage missionnaire avec Barnabas, on va réexpliquer tout ça. Il arriva ensuite à Derbé puis à Lystre, or il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une juive croyante et d'un grec. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, il le prit donc et le circoncit à cause des juifs de la région. Tous savaient en effet que son père était grec. Dans les villes où il passait, il transmettait les prescriptions décidées par les apôtres et les anciens de Jérusalem afin qu'on les observe. Les églises s'affermissaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Empêchés par l'Esprit Saint de dire la parole en Asie, ils passèrent par la Phrygie et le pays Galate. Arrivés près de la Mysie, ils tentaient d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien était là, debout, qui le suppliait. « Passe en Macédoine, viens à notre secours. » Dès qu'il a eu cette vision, nous avons cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que Dieu nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. De Troas, nous avons fait voile sur Samothrace et le lendemain sur Néapolis. De là, nous sommes allés à Philippe, première ville du district de Macédoine et colonie romaine. Nous avons séjourné quelques jours dans cette ville. Etc., etc. Et tout la suite du voyage missionnaire se fait sur ce mode-là. Qu'est-ce qui se passe ? Paul a l'intention d'aller à un endroit précis. Alors c'est là où, émerveillé, vous découvrez la carte derrière moi. Alors, si vous prenez un peu la géographie du bassin méditerranéen, donc vous avez Israël qui est ici, la Grèce, la Macédoine ici, et ici, tout le Moyen-Orient. Je le fais dans l'autre sens pour vous ? Ok. Israël, la Macédoine, le bassin méditerranéen. Et Paul, ce qu'il veut faire, c'est partir d'Israël et partir vers l'Asie. Et donc il essaye une première fois, l'esprit lui dit non. Alors il continue un peu son voyage, il essaye de remonter par le nord, l'esprit lui dit non. Et donc il va jusqu'à Troas, et là, il a une vision qui lui dit « Prends le bateau et va en Macédoine. » Et Paul obéit. Maintenant, je voudrais qu'on s'intéresse au premier voyage missionnaire de Paul. Qu'est-ce qu'on voit dans le premier voyage missionnaire de Paul ? Alors, on ne va pas forcément tout lire parce que c'est les chapitres 13 et 14 des Actes. Mais on sait une chose. Et là, vous découvrez émerveillé la deuxième carte derrière moi. On sait une chose. L'Esprit demande, quand le collège des anciens de Jérusalem est réuni, d'Antioche est réuni, l'Esprit demande qu'on le mette de côté Barnabas et Paul. Et il les envoie en mission. Alors, le texte de l'Écriture ne nous permet pas de savoir si dans cet envoi en mission, il y a aussi la notion d'un lieu géographique où ils sont envoyés. A priori, le mot qui est utilisé en grec ne permet pas de dire ça. Et on a ce mot dans un contexte où, en fait, il y a juste la mission d'un envoi, d'un appel qui est faite sans lieu géographique précis. Et en fait, on constate que dans ce premier voyage missionnaire, l'Esprit Saint n'est présent qu'à trois endroits. Le premier pour qu'on mette Paul et Barnabas de côté. Le dernier pour dire que les disciples qui entendent la parole sont remplis de lui. Et à un endroit seulement, dans son voyage, où Paul est saisi par l'Esprit et il porte un jugement sur un magicien qui est là et qui devient aveugle. Mais en fait, rien dans le premier voyage missionnaire ne fait mention de l'Esprit qui dit où aller et comment faire le voyage missionnaire. Pourtant, Paul agit. Il y a Paul et Barnabas, c'est le premier voyage missionnaire, donc c'est encore Barnabas qui tient les rênes de la mission, c'est lui qui donne un peu les grandes directions. Et on constate qu'ils vont à Chypre, qu'à Chypre, ils accueillent dans leur équipe un jeune garçon qui s'appelle Jean, ou Marc, ça dépend des moments, et ensuite qu'ils partent en Galatie. Donc, Israël est là. Vous avez l'île de Chypre qui est juste ici, et puis toute la Galatie qui est ici. La Macédoine est par là. La question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont fait ces choix-là ? Est-ce qu'ils ont entendu une voix de Dieu qui leur permet de dire c'est là qu'il faut aller ? Comment est-ce qu'ils ont trouvé la volonté de Dieu pour obéir ? Alors il y a quelques petits indices dans l'Écriture qui peuvent nous aider à affiner notre discernement à ce niveau-là. Le premier, c'est que dans Actes 4.36, c'est la première fois qu'on apprend qui est Barnabas. Et il est dit « Ainsi Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui se traduit « fils d'encouragement », un lévite originaire de Chypre. » Intéressant. La première destination à laquelle ils vont, c'est Chypre. Et Barnabas est originaire de Chypre. Si demain, on me dit « Tu dois partir en mission », je pense que mon réflexe, ce sera d'aller dans un endroit que je connais pour apporter la parole à des gens avec lesquels je sais comment les prendre, je sais comment leur apporter les choses. Et à Troas, ils rencontrent Jean et ils le prennent. Est-ce qu'ils ont entendu une voix qui leur permette de dire « Vas-y, tu peux y aller, lui, il est super ». Non. Mais dans Colossiens 4.10, on apprend qu'en fait Jean, ou Marc, c'est le cousin de Barnabas. Donc en fait, Barnabas le connaissait, il savait qui il était. Il savait qu'il manifestait les fruits de l'évangile suffisamment pour l'emmener en mission. Ensuite, ils vont en Galatie. Pourquoi ? Mais simplement parce que ça fait 10 ans que Paul prêche là-bas. Avant d'arriver à Antioche et d'être dans le collège des anciens d'Antioche, Paul, pendant 10 ans, va évangéliser toute la Galatie. Ils vont en Galatie parce que Paul connaît le terrain. Parce que Paul sait où on peut annoncer l'évangile. Il sait là où ça a déjà été fait. Donc dans tout ce premier voyage missionnaire, on voit un Barnabas et un Paul qui réfléchissent et qui se disent « Qu'est-ce que je connais ? Qui je suis ? Qui sont les gens autour de moi ?» Et du coup, qui vont chercher à faire la volonté de Dieu en utilisant tous les éléments qu'ils ont à leur disposition. Alors la question que je me pose, c'est quand est-ce que Paul a le mieux obéi ? Est-ce que c'est lors du premier voyage missionnaire, où il a décidé les choses un peu de manière rationnelle? Ou est-ce que c'est lors du deuxième voyage missionnaire où l'Esprit a parlé et il a obéi? Vaste question. Eh bien, je pense qu'il y a une réponse possible à cet élément. Et je voudrais pour ça qu'on prenne le psaume 104, qui va nous aider un peu, là aussi, à affiner les choses. C'est un psaume qui est tellement beau, je vais vous le lire en entier. Le psaume 104. Que je bénisse le Seigneur, Seigneur mon Dieu, tu es très grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, il déploie le ciel comme une toile, il fixe sur les eaux ses chambres à l'étage, il prend les nuages pour char, il s'avance sur les ailes du vent, il fait des vents ses messagers, le feu flamboyant est à son service. Il fonde la terre sur ses bases, jamais, jamais elle ne vacillera. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement, les eaux se tenaient sur les montagnes, elles fuient quand tu les rabroues, elles se précipitent au bruit de ton tonnerre, elles montent dans les montagnes, descendent dans les vallées vers le lieu que tu leur as assigné. Tu as posé une limite qu'elles ne doivent pas passer, afin qu'elles ne reviennent pas couvrir la terre. Il conduit les sources dans les torrents qui coulent entre les montagnes. Elles font boire tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel demeurent près d'elles et font entendre leur voix parmi le feuillage. De ses chambres à l'étage, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait pousser l'herbe pour les bêtes et les plantes que l'homme cultive pour tirer le pain de la terre, le vin qui réjouit le cœur de l'homme, faisant plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres du Seigneur sont rassasiés, les cèdres du Liban qu'il a plantés, c'est là que les oiseaux font leur nid, la cigogne a sa demeure dans les cyprès, les montagnes élevées sont pour les bouquetins, les rocs sont pour l'abri des damans. Il a fait la lune pour marquer les rencontres festives, le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et c'est la nuit où tous les animaux de la forêt se mettent à fourmiller. Les jeunes lions rugissent après leur proie. Ils demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, ils se retirent et se couchent dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tout ce que tu as produit. Voici la grande et vaste mer, la fourmi sans nombre des animaux, petits et grands. Là se déplacent les bateaux et l'Léviathan que tu as façonné pour jouer avec lui. Eux tous mettent leur espoir en toi pour que tu leur donnes leur nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils sont rassasiés de bien. Tu te détournes, ils sont saisis d'épouvante. Tu leur retires le souffle, ils périssent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle. Ils sont créés et tu renouvelles la terre. Que la gloire du Seigneur subsiste toujours, que le Seigneur se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle frissonne. Il touche les montagnes et elle fume. Je chanterai pour le Seigneur tant que je vivrai. Je chanterai pour mon Dieu tant que j'existerai. Que ma requête lui soit douce. Moi, je veux me réjouir dans le Seigneur. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Que je bénisse le Seigneur, louez le Seigneur. Il est magnifique ce psaume, c'est un de mes préférés. Vous allez vous dire, en ayant entendu ce psaume, moi j'ai pas la réponse et je vois vraiment pas le rapport avec ce qu'il nous a raconté du voyage missionnaire avant. C'est normal. Je voudrais vous parler de quelque chose qui s'appelle la providence. Et vous allez comprendre assez vite le lien que je vais faire entre les deux situations. Et je voudrais vous faire une petite page de pub avant de vous parler de la Providence pour ce bouquin qui vient de sortir. C'est un livre édité sous la direction de Alain Nisus, le professeur de dogmatique de la faculté. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de le feuilleter. C'est un excellent ouvrage, très bien fait, qui traite de toutes les grandes questions dogmatiques. Le baptême, l'Église, l'Esprit Saint, qu'est-ce que ça change? Jésus, qui est à la fois homme et Dieu, qu'est-ce que ça a comme implication pour nous? Toutes les questions que vous pouvez vous poser de manière un peu précise en théologie sont abordées là-dedans. et de manière très abordable. C'est pas un livre pour universitaires frustrés qui a besoin de mettre plein de mots compliqués toutes les deux lignes. C'est vraiment un livre, il l'a écrit pour une fois réfléchi, théologie pour tous. C'est un peu genre la théologie pour les nuls. Et c'est vraiment très bien fait. Donc je vous encourage à, au moins si vous avez l'occasion de le feuilleter et si vous avez les moyens de l'acheter, c'est un livre, un investissement pour l'avenir. Cadeau de Noël. Cadeau de Noël. Et que nous dit ce livre ? Il nous dit de la providence ceci. C'est la manière dont Dieu gouverne le monde, s'en occupant conformément à sa volonté et pourvoyant à ses besoins. Je vais répéter et expliquer. C'est la manière dont Dieu gouverne le monde, conformément à sa volonté et pourvoyant à ses besoins. La providence, c'est le fait que si nous vivons et respirons ce matin, c'est parce que Dieu l'a décidé et qu'il est fidèle à sa création. C'est assez extraordinaire. Le psaume 104, pour moi, c'est le psaume de la providence. Si je reprends au moment où il parle de la terre, il dit « Jamais, jamais elle ne vacillera. » C'est Dieu qui fonde la terre sur ses bases. Et on peut respirer un grand coup de soulagement. Dieu est fidèle à ce qu'il a fait. Et donc jamais, jamais, la terre ne vacillera. Le soleil restera dans le ciel. Nous aurons de l'eau, nous aurons de l'air pour vivre, parce que la providence de Dieu agit dans le monde. Mais là où je voudrais attirer votre attention, c'est que cette providence de Dieu, elle répond quand même à certains principes, à des lois précises que Dieu a posées dans le monde et qui nous engagent. Par exemple, à un moment, il est question que Dieu fixe sur les eaux une limite et elles savent qu'elles ne doivent pas les dépasser. C'est plutôt une bonne nouvelle, parce que si on devait vivre en se disant « mais peut-être que demain la Seine va tout recouvrir la France », eh bien on serait peut-être moins détendu qu'on l'est aujourd'hui. En fait, quelque part, on a tous cette notion, même les non-chrétiens, même les païens, ont cette notion de la providence de Dieu, qui fait que Dieu a fixé des limites qu'on ne dépasse pas. Alors ça, c'est vrai pour tout le monde naturel. On sait que si je prends un stylo, je le laisse tomber, Dieu a créé une loi, la gravité, c'est sa providence qui a posé cette loi, et il est fidèle à cette loi. Si je laisse tomber mon stylo, il tombera à chaque fois. Et c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il est question aussi dans ce psaume du règne animal et du règne végétal. Au verset 21, et c'est un verset que j'aime beaucoup, il est écrit « Les jeunes lions rugissent après leur proie. Ils demandent à Dieu leur nourriture. » Quand vous entendez un lion rugir au moment où il part en chasse, est-ce que vous êtes déjà dit « Il est en train de prier ?» En général, quand c'est après vous qui rugit, vous ne vous dites pas ça. Mais un lion qui rugit est en train de demander à Dieu sa nourriture. C'est extraordinaire, le lion lui-même a compris qu'il dépendait totalement de Dieu, qu'il était soumis à cette providence, et que parce que Dieu est fidèle à sa volonté, il pourvoit aux besoins de sa création, il sait qu'il aura une proie à manger. Seulement, est-ce que le lion se contente de rugir et de rester dans sa tanière ? Non. Il demande à Dieu sa nourriture et il part en chasse. Au verset 27, il est question des animaux. « Eux tous mettent leur espoir en toi pour que tu leur donnes leur nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. » Comment est-ce que Dieu donne sa nourriture au lion ? Et parce qu'il donne la gazelle. Et comment il donne la gazelle ? C'est écrit aussi dans le psaume, je ne sais plus exactement à quel endroit, mais parce qu'il fait pousser l'herbe pour la nourriture des animaux et pour le besoin des hommes. La loi de Dieu, de cette providence, elle se décline pour chaque créature selon l'identité de cette créature, selon sa vocation propre. La vocation d'un lion, c'est de courir après la gazelle et de la manger. Mais quand il est pleinement dans sa vocation, le lion est conscient qu'il dépend de Dieu et que cette nourriture lui est donnée par Dieu. Alors ma question, c'est quelle est la vocation de l'homme dans cette dépendance à la providence de Dieu ? Alors on a une toute petite réponse dans ce psaume. Au verset 23, l'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Dieu donne à l'homme. Mais est-ce que l'homme reste chez lui, comme le lion, à attendre que tout lui arrive dans les mains ? Non, il sort et il se rend à son ouvrage. L'homme engage sa liberté et sa responsabilité tout en étant soumis à Dieu. Qu'est-ce que ça signifie pour nous, cette parole de Matthieu 6, 33, qui dit « Ne vous inquiétez de rien, votre Père qui est dans les cieux sait que vous avez besoin du manger et du boire, ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses. Vous, préoccupez-vous du royaume de Dieu, toutes choses vous seront données en plus. » Est-ce que ça signifie que nous devons nous dire juste « je vais prier et rester chez moi » parce que Dieu va me donner ces choses, il sait que j'en ai besoin. Non. En tout cas, moi, je ne plaiderai pas dans ce sens. Parce que ce psaume me montre que la providence de Dieu s'adapte à chaque personne, et que pour, à chaque créature, et que pour l'être humain, Dieu s'attend à ce que l'être humain soit responsable et engage sa liberté dans ce cheminement. Alors, ça veut dire que je ne vais pas m'inquiéter pour mon travail, je ne vais pas m'inquiéter pour ma nourriture. Mais je ne vais pas m'inquiéter tout en agissant. Et je vais pouvoir agir justement parce que j'ai profondément conscience et confiance en cette providence de Dieu. Quand je vais aller chercher un emploi, quand je vais démarcher des entreprises, ça ne va peut-être pas se faire comme ça. Mais je sais que ça se fera, parce que Dieu sait que j'en ai besoin. Mais ça se fera avec moi. Et j'aime ce psaume parce que donc tout ce psaume invite à la confiance en Dieu et à comprendre qu'on dépend totalement de la volonté de Dieu. Et pourtant, au verset 34, il est dit que ma requête lui soit douce. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de prier ? Puisque Dieu nous donne toutes choses et qui sait qu'on en a besoin ? Est-ce que la prière est utile ? Eh bien oui, elle l'est. Parce que c'est la manière dont Dieu a choisi d'exercer sa providence pour nous. Dieu a choisi que l'homme, créé à son image, soit acteur de cette gestion de la providence. Et c'est extraordinaire. Ça veut dire que Dieu nous prend très au sérieux. Chacun d'entre nous. Dieu n'a pas fait de nous des pantins, et même s'il maîtrise toutes choses, le principe de la création de l'homme dans cette providence, c'est que l'homme soit responsable et engage sa liberté. Alors, il nous a déjà donné, mais il attend quand même qu'on le prie. Parce que c'est comme ça qu'il a choisi de nous donner. Vous saisissez ? Alors, si on revient à notre premier voyage missionnaire de Paul, Paul sait que Dieu tient toutes choses entre ses mains. Il sait que l'évangile va être prêché de toute façon. Et il sait qu'il est appelé, envoyé par le Saint-Esprit pour faire ça. Est-ce qu'il reste à Antioche à prier jusqu'à ce qu'il ait une vision pour avancer dans le monde ? Non, parce que Paul a compris profondément ce principe spirituel qui est qu'il a un rôle à jouer. Dieu lui a donné une intelligence, Dieu lui a donné une perception de l'environnement qui est autour de lui, et c'est la volonté de Dieu qui l'utilise, ça. La volonté première de Dieu, c'est qu'on rentre dans cette vocation, dans cette identité d'homme libre et responsable devant lui. Maintenant, on voit que le premier voyage missionnaire, Dieu est fidèle à Paul, il intervient à différents endroits, et puis on voit les fruits, il y a beaucoup de conversions. Dans le deuxième voyage missionnaire, même stratégie, Paul se dit « J'ai évangélisé Israël, la Galatie, Chypre, et ben on va continuer. L'Asie et la Mysinie. » Et là, Dieu agit en disant « Non, pas cette fois. » Est-ce que la stratégie de Paul était mauvaise ? Je ne crois pas. Mais Dieu avait un projet plus excellent encore, et donc il a indiqué sa volonté de manière beaucoup plus précise, beaucoup plus formelle. Qu'est-ce que ça signifie, finalement ? Eh bien, d'une certaine manière, ça veut dire qu'on a le droit de se détendre. Et c'est aussi une bonne nouvelle. Qu'est-ce que ça signifie obéir à la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui ? Eh bien, ça signifie user de notre intelligence. Ça signifie user de notre liberté et de notre responsabilité. Ça veut dire user de la finesse de notre regard sur le monde. Dans nos milieux charismatiques, petite pointe polémique, dans notre milieu charismatique, on a parfois une profonde méfiance envers l'intelligence. Parce qu'on a le sentiment que la personne qui réfléchit trop, elle n'est pas suffisamment spirituelle, elle n'écoute pas suffisamment la volonté de Dieu. Je pense que c'est une grossière erreur. Je pense que c'est une grossière erreur parce que ça signifie quelque part que l'homme est plus spirituel quand il n'est pas dans sa vocation profonde d'homme, qui use de son intelligence et de sa responsabilité. Et pour moi, c'est un problème de dire que l'homme doit être moins homme pour être dans sa vocation et obéir à la voix de Dieu. J'ai le sentiment qu'il y a comme un paradoxe. Mais Paul a écouté la voix de l'Esprit quand l'Esprit s'est adressé à lui. Donc n'être que dans l'intelligence et ne pas se laisser une ouverture pour entendre la voix de Dieu, il me semble que c'est aussi une erreur. On se tire une balle dans le pied joyeusement. Je crois que l'équilibre, c'est de chercher à vivre sa vie sous le regard de Dieu, en usant de son intelligence et en se soumettant les uns aux autres, en ayant les lumières des uns et des autres. Si, quand je vais faire un choix, je me dis « mais il y a telle bonne raison, telle bonne raison, telle bonne raison pour ce choix, que tel frère m'encourage à le faire, et que j'ai le sentiment que c'est le temps, que bien sûr je prie et je remets ça à Dieu en disant « mais dis-moi quelque chose », et que Dieu ne dit rien, c'est pas que Dieu s'en fiche, c'est que Dieu estime qu'on est pleinement dans notre vocation, il n'a pas besoin de parler, on est dans ce qu'il est. Alors on avance. Croyez bien que si c'est pas la bonne direction, Dieu saura mettre le garde-fou. Alors attention, pas sans équilibre, pas sans nuance. Moi on m'aurait dit ça il y a 5 ans, je fonçais tête baissée dans le mur, en me disant « j'ai tout bien fait, c'est bon ». Non, ça nécessite quand même un peu de sagesse, de prudence, et ça nécessite surtout d'essayer de vivre toute sa vie sous le regard de Dieu. De prier chaque jour, de chercher à connaître Dieu, de chercher à connaître l'Écriture pour connaître les grands principes qui guident notre vie. C'est donc savoir user d'audace intelligemment et d'être dans une douce prudence. Notre chère Anna, eh bien, une fois qu'elle a compris ce principe-là, elle peut se dire une chose toute simple. Moi, partir à l'aventure comme ça, c'est pas du tout mon truc. Je suis hyper timide, je suis pas trop débrouillarde. Par contre, j'ai un super don pour l'administration. Et je suis hyper efficace à ce niveau-là. Vous me laissez dans un bureau avec plein de dossiers et je gère la question. Eh bien, je vais faire l'ENA. Et notre chère Anna, on va la retrouver à 40 ans, assistante d'un grand bonhomme qui a un pouvoir de décision, et elle va vivre sa vocation chrétienne dans cette administration en disant de temps en temps, tu sais, moi je ferai pas comme ça. Parce que je suis chrétienne, mais tu vois, il me semble que telle chose, c'est pas juste de les faire comme ça. Et Anna va jouer son rôle de chrétienne pleinement, dans sa vocation pleinement, avec une efficacité extraordinaire. Qu'est-ce que c'est obéir à la voix de Dieu si ce n'est rentrer dans cet art de notre vocation responsable? Je crois que si on a compris ce principe spirituel-là, il y a plein de choses qui changent dans notre vie. Plein de choses. Notre manière d'envisager notre quotidien. Le fait de se dire « mais j'ai pas converti 5000 âmes ce dernier mois, est-ce que je suis un bon chrétien ?» Oui. Oui, si et seulement si on est vraiment dans notre vocation d'homme devant Dieu. Ça veut dire aussi que si on a compris que l'intelligence est une bonne chose, alors il faut se former, un minimum. Ça veut dire aussi qu'il faut aiguiser notre esprit critique, exercer notre discernement. Parce que on n'a plus le droit, simplement, de suivre les gens bêtement. Si on a compris ce que c'est que ça, être homme devant Dieu, ça veut dire qu'on devient responsable pour soi et que on est une personne qui va faire la différence. Parce que elle réfléchit. Parce que elle est à l'écoute de Dieu, elle aiguise cette écoute et cette intimité avec elle, avec lui. Et je crois que si tous on grandit dans cette vocation profonde d'homme et qu'on s'exhorte, qu'on s'encourage les uns les autres à le faire, peut-être que notre état lui-même va changer. Si on donne l'exemple en tant que chrétien, que les gens peuvent se dire « Ah, lui, c'est un chrétien. On ne peut pas faire n'importe quoi avec lui. Il ne se laissera pas faire. C'est quelqu'un qui réfléchit. C'est quelqu'un qui voit derrière les choses. C'est quelqu'un de responsable. » Je pense qu'on fera véritablement la différence. Je vous invite à prier. Père, je veux te rendre grâce. Je veux vraiment te confesser la joie débordante de mon cœur. Parce que tu nous prends au sérieux, Père. Parce que tu nous as créés avec une faculté extraordinaire d'interagir avec notre monde. Tu nous as créés avec cette capacité profonde de voir les choses et d'en tirer des conclusions. Père, tu nous as voulu libres et infiniment responsables devant toi. Et c'est une grande noblesse, une belle et haute tâche que tu nous as donnée d'administrer ce monde avec tout ce que nous sommes. Père, je veux te prier pour que la parole puisse vraiment germer avec plus de force, plus de vigueur dans notre cœur, dans la bonne terre que nous sommes. Qu'elle puisse produire un fruit au point que les nations qui nous regardent se disent « Leur Dieu est un grand Dieu. » Et ils ont compris qu'ils étaient dans le cœur de Dieu. Et Père, nous voulons te faire confiance et nous voulons te redire notre joie et notre paix de savoir ta fidélité à notre égard, ta fidélité à l'égard de ce monde. Nous voulons te glorifier, Père, te redire, comme nous l'avons dit dans nos chants de louange, que toute la terre est remplie de ta gloire. Et nous voulons venir à toi, car tu as ce dont nous avons besoin. Nous voulons venir non pas comme quelqu'un qui se sert, un distributeur, Père, mais parce que nous avons compris que nous dépendons totalement de toi, et que toute notre joie est en toi. Alors trouve-nous disposés à mieux te connaître, à mieux être nous-mêmes sous ton regard, Père. Assiste-nous de ton esprit, permets-nous de grandir dans cette vocation profonde. Et en toute chose, Père, nous voulons te rendre gloire et manifester ton Saint-Nom.